C'est l'heure de l'instant M, avec la non moins délicieuse Sonia De Villard pour
et
une
des
émission...
Shabada-bada-bada-bada.
Une émission très littéraire, Sonia, aujourd'hui.
Très littéraire, mais quand même, shabada-bada-bada, on va l'avoir en tête toute la journée.
Je vous écoute.
À demain, Augustin.
À demain.
Le clivage, c'est bon, tout le monde tweet, filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h40, l'instant M, c'est parti, profitez-en.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Trois, une presse indépendante.
Formation numérique.
Exciting.
Le nez sur l'écran internet.
Amélie Nothomb, Delphine de Vigan, Christine Angot, Simon Liberati, ils ont tout envahi. Vos émissions de radio, les plateaux télé, toutes les pages de tous les magazines. La rentrée littéraire, c'est un marathon médiatique dont on a décidé de vous donner les clés. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour.
Écrivain, critique, blogueur et responsable du magazine littéraire, articles et émissions font-ils vendre des livres? Comment l'édition française est-elle devenue médiatico-dépendante? On en parle avec vous après le témoignage d'un écrivain, Lionel Duroy, j'ai appelé l'auteur du Chagrin, dans sa maison du Mont Ventoux pour savoir comment un romancier vit la pression de ses interviews à répétition.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Allez, des nouvelles d'abord du marché télé. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a déjeuné hier avec une association de journalistes médias. Elle veut, Delphine Ernotte, fromage et dessert. Entendez, augmentation de la redevance et retour de la publicité après 20h. Une entreprise déficitaire depuis des années, c'est quand même un sujet, a-t-elle martelé. Delphine Ernotte a par ailleurs divisé son salaire par deux en quittant Orange pour nos chaînes publiques. Et quand je vous disais qu'il y aurait du shabada dans l'air, le torchon brûle et le ton monte entre Daniela Lombroso et France Télé. Plusieurs audits concernant la maison production de l'animatrice ont été diligentés par la télévision publique afin de faire la lumière sur les budgets de la fête de la musique qu'elle animait sur France 2. Daniela Lombroso réplique, attaquant France 3, cette fois pour, je cite, « parasitage et concurrence déloyale ». Son émission Shabada avait été remplacée en 2013 par un autre programme musical. Voilà, le grand cirque de la rentrée littéraire bat son plein pour le bonheur du public, évidemment, hein, qui aime à entendre parler des livres dans les médias et qui aime les livres tout court. Pour les éditeurs, l'enjeu économique est énorme. Et pour les écrivains, alors, pour eux qui enchaînent interviews et émissions, comment vivent-ils ces quarts d'heure de célébrité répétée? J'ai posé la question à Lionel Duroy, qui est l'auteur de « Priez pour nous, du chagrin et de colère ».
Écoutez, au début, dans les premiers livres, en fait, je dois reconnaître qu'on est plutôt flatté d'être invité à plusieurs reprises. Et puis ensuite, on mesure différentes choses. On mesure d'abord que c'est d'une grande injustice. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie d'un écrivain où vous êtes reconnu parce que vous avez suffisamment publié. Et alors, à la rentrée, on vous place systématiquement dans les 10 ou 15 livres dits les meilleurs. Donc je trouve ça déjà injuste. Pour ce qui est de l'écrivain que je suis quand ça se passe, maintenant je trouve que c'est vraiment une épreuve. C'est une épreuve parce qu'il y a le côté répétitif, mais surtout plus profondément, je trouve ça vraiment difficile de devoir chaque fois réduire son livre à un propos oral. C'est-à-dire de le raconter d'une certaine façon, ce que j'essaie de pas faire d'ailleurs parce que je trouve pas ça bien. Un livre, ce n'est jamais une histoire. Un livre, c'est d'abord un très long travail d'écriture. Si on fait référence au Chagrin, par exemple, qui est un très gros livre dans lequel je raconte toute l'odyssée de ma famille à travers le siècle, j'ai pesé chaque mot, j'ai mis des mois à l'écrire, il m'a rendu malade ce livre, et au moment où à l'oral il faut en parler, on le réduit, on le vulgarise, c'est presque du fait divers. Et là ça devient, je trouve, très douloureux. Autant dans certaines émissions, on va me laisser beaucoup le temps de parler, alors en une heure, en face d'un journaliste très scrupuleux, très sensible, on arrive vraiment, je crois, à parler d'un livre, effectivement, si on a la distance devant nous. Mais assez souvent, il s'agit en fait de caricaturer. Et je sais que moi, lorsque je sors d'une émission comme ça, où j'ai dû aller trop vite, je me sens mal, je me sens triste. Je trouve que je me suis trahi, je trouve que finalement, on peut interpréter ça soit comme un règlement de compte, soit quelque chose de maladroit. Et ça vous laisse en fait un grand malaise.
Lionel Duroy, est-ce que vous jouez le jeu? À chaque sortie de livre, est-ce que vous jouez le jeu? Est-ce que vous allez partout? Est-ce que vous répondez à toutes les invitations? Et comment ça se passe avec votre éditeur?
Oui, j'essaie de répondre à toutes les invitations parce que le système est devenu tel, en fait, qu'un livre sans auteur est un livre qui ne va pas être accueilli, qui ne va pas marcher. Et je m'amusais là parce que je suis au milieu d'un livre et à l'idée de sa sortie prochaine, je ne sais pas quand, je me disais... j'aimerais bien que mon livre il sorte à titre posthume, c'est-à-dire faire le mort en fait, ne pas être là et laisser mon... Mais vraiment, hein, je le pensais vraiment, j'ai même écrit un texte dessus, c'est-à-dire... et puis, je suis pas mort, mais je voudrais que mon livre soit accueilli tout seul, sans moi. Mais le système aujourd'hui, il est tel qu'en fait, un livre sans auteur, donc, alors que l'auteur est chez lui, claquemuré, qu'il n'a pas envie d'en parler, c'est un livre qui ne va pas marcher. Et donc, je trouve ça très dur injuste à l'égard d'une maison d'édition qui se donne du mal. Moi, j'adore ma maison d'édition, Julliard, donc je veux lui rendre ce qu'elle se donne comme mal pour moi depuis des années. C'est injuste à l'égard d'une attachée de presse comme Agnès Dumortier, qui je trouve une attachée de presse excellente, très lettrée, qui parle très très bien des livres. Tous ces gens se donnent du mal pour que votre livre arrive en librairie et soit bien accueilli. Si vous dites non, bah écoute, là j'ai fait 3 émissions, ça me suffit, j'ai plus envie de paraître, c'est vraiment leur tirer dans le pied. Et donc, on est pris, malgré nous, dans ce système. Et je suis très ambivalent là-dessus, parce que je trouve qu'on doit au lecteur de parler. C'est-à-dire, je n'ai jamais refusé une invitation en librairie, par exemple. Hein. Mm-hmm. Parce que là, pour le coup, dans les librairies, ce sont des gens qui vous ont lu, ils sont contents que vous veniez, et ça fait vraiment partie, je trouve, de cette rencontre qui est belle autour d'un livre.
Merci beaucoup, Lionel Duroy.
Moi qui vous remercie.
On salue le Mont Ventoux, et on vous souhaite de beaux mois d'écriture devant vous, avant la prochaine
Merci
sortie.
Beaucoup.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Lâchez vos écrans, vous êtes sur France Inter.
Et mon invité ce matin dans l'Instant M, c'est Pierre Assouline, donc La République des Livres, votre blog, le magazine littéraire, votre revue, de nombreux ouvrages à votre actif, biographie et romans. C'est assez beau ce qu'il dit Lionel Duroy, un livre sans auteur, aujourd'hui il ne peut plus être accueilli par le public.
Oui, il y a deux choses distinctes. C'est un livre sans auteur d'une part et d'autre part un livre sans promoteur.
C'est ça.
Parce que livre sans auteur, il n'y en a pas. L'auteur signe. Mais vous avez des écrivains qui refusent de jouer le jeu, ce que je comprends parfaitement. Vous savez, pendant très longtemps, Patrick Modiano ne donnait pas d'interview et passait très très peu à la télévision, pour des raisons nombreuses. Et puis d'autres écrivains également qu'on connaît et qui se faisaient plutôt rares dans les médias. Même Modiano, pour parler de lui, par exemple, ne va jamais dans des librairies signer, faire des conférences, notamment des conférences. Et ça n'empêche pas ces livres de trouver leur public. Donc, on n'est pas obligé d'accepter. Donc, il ne faut pas non plus trop se plaindre. L'épreuve, elle est quand même très relative. Hein. Il y a des peines sociales bien plus graves et bien plus
Évidemment.
Douloureuses que celles qui consistent à faire le tour de France, invité par des libraires qui vous cajolent, qui vous choient.
Alors là, on ne parle pas des libraires, mais de cette gigantesque pression médiatique qui s'abat sur une poignée d'auteurs, parce qu'il faut bien le dire, sur les 589 romans de la rentrée, c'est une toute petite
oui, la
partie.
La pire des sanctions, la pire épreuve, c'est l'indifférence.
C'est ça.
Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Mm-hmm. C'est-à-dire que personne ne parle du livre que vous faites. Qu'on ne parle pas de vous, ça n'a pas d'importance, mais qu'on ne parle pas du livre. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a des livres qui passent complètement à la trappe. Non seulement il n'y a pas un mot sur eux dans les médias, mais il n'y a pas un mot nulle part, et puis très souvent, ils n'apparaissent même pas en librairie. Parce que les librairies n'ont pas des murs extensibles à souhait, mm-hmm. et qu'il y a les offices, et qu'il y a même des livres qui ne sortent pas des cartons. Parce qu'il n'y a pas de place.
Donc, entrer dans la lumière médiatique, c'est un enjeu énorme pour les éditeurs. Là, ce qui se passe là dans les semaines qui sont en train de s'écouler, c'est un enjeu économique majeur, Pierre Assouline.
Oui, c'est pas seulement médiatique. Vous savez, ce qui fait le succès d'un livre, ce n'est pas les médias, ce n'est pas... Non, c'est un tout. C'est ce qu'on appelait autrefois le bouche à oreille et qu'on appelle aujourd'hui le buzz, mais ça revient au même. Moi, j'appelle ça toujours le bouche-à-oreille. Et ce bouche-à-oreille, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, vous avez des émissions de télévision, des journaux, on peut les citer, des radios, France Inter et d'autres. Et puis, vous avez les libraires. Et puis, vous avez aussi les blogs, l'Internet, qui est une caisse de résonance extraordinaire, les forums en ligne. Tout ça fait ce bouche-à-oreille et ce buzz qui est incontrôlable et immaîtrisable, heureusement. Parce que s'il était maîtrisable, malgré les efforts des agences de marketing qui essayent quand même d'être un peu derrière tout ça, s'il était maîtrisable, eh bien les plus riches, à la fois éditeur et parfois auteur, les plus riches auraient la meilleure résonance.
Évidemment. Livret de dos vient de publier une enquête sur les médias prescripteurs en manière de vente de livres, sondage auprès des librairies cet été. Donc les médias les plus prescripteurs, c'est dans l'ordre la télé, la radio, ensuite la presse féminine. Les émissions de télé, la grande librairie écrase tout, malgré une audience relativement modeste, mais ça reste quand même une émission sur les livres, une des dernières en prime time sur France 5.
Parce que c'est une des rares émissions, à 8h30, à 20h30, sur une chaîne du service public, et peut-être la seule, à cette heure-ci, dans cette configuration, donc c'est normal. Et puis elle est bien faite.
Ça dit bien sa grande solitude, Pierre Assouline.
C'est sa solitude, mais en même temps, moi j'aimerais ajouter que par exemple, Bibliothèque Médicis de Jean-Pierre Elkabbach
sur Public Sénat,
ouais. C'est une très bonne émission.
Oui, dont on parle peu.
C'est une très bonne émission qui ne parle que de livres, parce que c'est ça aussi. Hein. Une émission littéraire, ça ne parle que de livres. Ce n'est pas une émission de variété où on invite un écrivain.
Alors, justement, dans le classement de Livre Hebdo, derrière la grande librairie, on trouve Télématin, donc qui est la tranche d'information de William Lémergie sur France 2 à l'aube. Donc ça prouve bien que les espaces où on parle de livres à la télévision se sont considérablement réduits. Et après Télématin, le fameux On n'est pas couché de Laurent Ruquier.
Oui, mais alors non seulement, évidemment, ce sont des émissions de variété ou de distraction ou d'information où on parle de livres entre autres. Très souvent, les écrivains y sont starisés, notamment chez Ruquier. Je ne suis pas sûr que ça soit très propice pour comprendre vraiment le contenu des livres, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que s'il est vrai que ces émissions de télévision font vendre des livres, elles font vendre un certain type de livres. Si vous envoyez Pierre Michon, par exemple, qui est un des écrivains les plus intéressants qu'on ait aujourd'hui en France, dans ces émissions-là, ça n'a aucun intérêt, parce qu'il ne va pas s'exprimer, ça ne passera pas auprès de ce type de public. C'est pour ça qu'il faut, préciser à chaque fois.
Il faut préciser à chaque fois. Alors, vous qui avez, et je l'ai lu cet été avec un immense bonheur, Pierre Assouline, écrit la biographie de Gaston Gallimard, qui est d'ailleurs aujourd'hui publiée en folio. À l'époque, c'était chez un autre éditeur que vous l'aviez publié, un demi-siècle d'édition française. Vous vous êtes donc plongé dans toute l'histoire de l'édition française. À partir de quelle époque cette dépendance médiatique est devenue évidente? À partir de quelle époque elle a conditionné le travail de l'éditeur?
Le plus important, ce n'est pas la dépendance médiatique. Alors, les médias littéraires et autres, disons que ça existe depuis le début du siècle, avec l'apparition, justement, de Bernard Grasset, qui a lancé la publicité littéraire, à la suite de Michel Kallmann, mais de Kallmann Lévy.
Et justement, quand vous racontez cet épisode de la vie de Bernard Grasset, vous précisez bien que Bernard Grasset, il lance la publicité littéraire pour contrecarrer le pouvoir exorbitant des critiques, justement.
Des critiques, oui.
Des médias.
Il aimerait, justement, c'est un tout. Je daterai l'apparition de Bernard Grasset, de Robert de Noël et de Gaston Gallimard, donc en gros au début du siècle, disons, la naissance de ce phénomène. C'est Gaston Gallimard qui lance avec d'autres les nouvelles littéraires, et c'est Hachette, ou qui lance des journaux comme Détective, qui parle des écrivains, qui parle aussi des livres. Donc c'est un tout. C'est un tout, et ça n'a jamais vraiment cessé. Donc c'est à la fois la presse littéraire elle-même, mais aussi le fait de parler des livres dans les grands journaux d'information. C'est une époque où la presse était florissante. Aujourd'hui, elle est réduite à la portion congrue. Et au sein de cette presse papier, comme on dit, la place des livres se réduit aussi. Cela étant, si vous voyagez, vous vous apercevez d'une chose, la France reste une nation littéraire. La rentrée littéraire est une exception typiquement française.
Ah bon ?
Ça n'existe nulle part ailleurs.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de calendrier dans les pays étrangers ?
Dans les autres pays, on publie des livres tout le temps, mais on en parle de manière très diluée. En France,
il y a ce pic d'intensité.
Il y a ce pic d'intensité à la rentrée. Il y a une seconde rentrée qu'on appelle la petite rentrée au mois de janvier, qui fait qu'il y a une focalisation de l'attention nationale sur les livres, mais ça n'existe pas ailleurs. Quand un écrivain connu meurt en France, c'est la une de tous les journaux. C'est pas le cas dans les autres pays. C'est quand même pas un hasard si Apostrophe a été une exception française. Aucune autre émission dans les autres pays n'a eu cette importance. À l'époque, les gens vont dire « Comment vous parlez ?» Vous invitez les écrivains à 21h30 à la télévision, sur la plus grande chaîne. Mais comment est-ce possible? Ben oui, et on ne parlait que de ça.
On y va à Apostrophe.
Dans ce village de Bourgogne, il y avait le château. avec et il y avait le château. Les nobles.
Oui, Bernard,
on va venir. Hein.
Oui. Je voulais vraiment te prévenir parce que je voyais...
Le château de Commarin appartenait aux de Vauguet depuis fort longtemps, appartient toujours aux de Vauguet.
Il y avait le vieux comte.
Il y avait le vieux comte Arthur, et c'était un grand chasseur, mon grand-père un grand braconnier. Alors, conseiller technique du comte pour la chasse, et ça devait finir par une amitié, c'était une véritable amitié.
Oui, mais le comte dit un moment à votre grand-père, il lui dit, mais le véritable aristocrate de nous deux, c'est vous.
Oh, pas tout à fait, non.
Ah, comment ?
Non. Il dit que vous êtes aussi un aristocrate, oui. Comme je le suis moi-même. Non, voilà ce qui s'est passé.
Les deux seigneurs, c'est vous et moi, monsieur le comte, le maître et le braconnier, celui qui tient et celui qui prend. Autres, c'est de la pisse d'âne borgne.
Voilà.
Eh bien, Tremblot, je vois que vous avez des idées purement aristocratiques.
Faites bien attention qu'un jour, on vous guillotine. Et mon grand-père a dit, ne vous faites pas de soucis pour ça, je leur chanterai la chanson qu'il faut.
En voilà un personnage et un personnage qui prenait un vrai plaisir à jouer son rôle de grand-père folklorique. C'est sa petite fille qui l'a raconté ensuite. C'était Henri Vincenot. Henri Vincenot, il n'était pas né de la dernière pluie quand Pivot l'avait inventé. Il avait déjà beaucoup écrit, beaucoup vécu. Et puis, en fait, il a été invité à nombreuses reprises parce que c'était un formidable personnage télévisuel, Pierre Assouline. Et voilà comment Apostrophe a pu se retrouver d'un seul coup, caisse de résonance faisant vendre énormément.
Ça a été le grand prescripteur. C'est pour ça que quand ça s'est arrêté, tout le monde s'est trouvé un petit peu orphelin.
1975-1990.
Oui, ça fait donc 40 ans. C'est né il y a 40 ans. Et c'est pour ça que ça a été compliqué après. Après, les libraires ont retrouvé leur rôle de prescripteur. Aujourd'hui, la prescription, vous l'avez
dit... Que Pivot leur avait confisqué, quasiment.
Confisqué, non, mais c'est venu, c'est le public, c'est l'opinion qui décide. Hein. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, c'est un peu partout. Hein. Le magazine littéraire fait sa couverture sur les romans de la rentrée, et c'est sûr que ça pousse un certain nombre de livres qui sont parfois connus, Christine Angot, etc., mais d'autres qui sont moins connus et qui ont moins de presse, et sur lesquels le magazine a mis le projecteur, mais c'est aussi tout ce qu'on entend sur Internet, dans les forums.
Alors Pierre Assouline, vous préparez justement un documentaire pour les 40 ans de la naissance d'Apostrophe, qui sera diffusé le 6 novembre sur France 2. Vous avez donc visionné des heures et des heures d'archives de Bernard Pivot, qui a été un de vos mentors, un de vos maîtres, et que vous suivez aujourd'hui au Goncourt, dont vous êtes membre de l'Académie. Vous y avez retrouvé quoi dans ces archives?
Écoutez,
que vous ne trouvez plus aujourd'hui, justement.
Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce qu'il y a 15 ans d'archives, à l'INA, j'ai vu des centaines d'émissions, avec l'immense plaisir, émissions que j'avais toutes vues en direct, parce que j'étais un fan, parce que je suis extrêmement âgé, comme vous pouvez le voir, et donc j'étais un fan d'Apostrophe, comme toute la France d'ailleurs, et donc j'avais jamais raté une émission. Donc j'en ai revu beaucoup, j'avais un peu oublié. La chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le décalage dans la liberté de parole. Il y avait une liberté de parole chez les écrivains, chez les journalistes, chez les intervieweurs, mais surtout chez les écrivains, extraordinaire. Et d'ailleurs, au début d'Apostrophe, c'était total, c'était un bordel extraordinaire. Les gens s'insultaient, s'engueulaient, surtout ils disaient des choses qu'on n'oserait jamais dire aujourd'hui. Il n'y avait pas d'autocensure. Et au fur et à mesure, et quand on arrive au bout
par
de 15
exemple,
ans...
Par exemple, qu'est-ce qu'on n'oserait pas dire aujourd'hui, puisqu'on a l'impression que chez les Hardisson et les Ruquier, tout est complètement déboutonné.
Dans les extraits. Parce
et que même on les encourage à...
C'est rien du tout. Hein.
C'est rien du tout.
Ah non, c'est rien. Chez Ruquier, c'est une émission où tout le monde applaudit n'importe qui et n'importe quoi. Donc, non, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Là, c'est en direct. Ça change tout, le direct. Vous êtes bien passé pour le savoir. La parole passe et il n'y a pas de censure possible. Mais surtout, j'ai mis des extraits, parce que c'est une anthologie que j'ai faite. Des extraits, notamment Denise Bombardier bombardant, c'est le cas de le dire, Gabriel Matzneff, à propos de ce qu'il a écrit sur les jeunes filles, ce rapport avec les jeunes filles. Et d'autre part, Cohn-Bendit, parlant des enfants, de son rapport aux enfants. Et puis d'autres extraits que je n'ai pas en tête, mais qui sont dans le film.
Qu'on ne verrait plus aujourd'hui, plus sur le
site. Ça passerait pas. D'abord parce que ça serait enregistré et ça serait coupé au montage.
Immédiatement nettoyé.
Et si ça passait, ça ferait un scandale considérable. Ces extraits-là n'ont pas fait de scandale à l'époque.
Voilà, à voir au mois de novembre sur France 2. Merci beaucoup Pierre Assouline, et à lire et à relire votre Gaston Gallimard chez Folio.